Chapitre 6. Où Météore triomphe et où Shuttlecock fait une importante trouvaille. Bien que Shuttlecock eût une grande confiance en Météore, qui, depuis un an qu'il était à son service, lui avait donné de grandes preuves de dévouement, d'intelligence et même d'initiative, le détective n'en était pas moins anxieux de savoir comment son jeune collaborateur s'était acquitté de la mission qui lui avait été confiée. Or, à midi tapant, au moment où le brave Gautret venait lui dire que le déjeuner était servi, Météore, toujours camouflé en vieux savant, se présentait devant lui et, après s'être gonflé les joues, déclarait, sur un ton de satisfaction évidente et de fierté justifiée, « Patron, ça y est, j'ai gagné la coquetier !» « Alors, s'écria le grand limier, tu me rapportes une lettre de la main de la princesse que j'ai l'honneur de déposer entre vos mains. » Météore remit l'enveloppe à Shuttlecock, qui, enchanté lui aussi, s'écriait « Bravo, petit, ça, c'est bien. Allez, va vite te déshabiller et reprendre ta physionomie habituelle. Je vais dire à Gautret de mettre ton couvert en face du mien. »« Patron ?» rougit le jeune secrétaire sous son maquillage. « Patron, vous m'invitez à déjeuner ?»«
Oui, je t'invite. »«
Comme un jour de fête ?»«
Mais n'est-ce pas un jour de fête, puisque tu as rapporté un vrai succès ?»«
Mon patron, vous me comblez. »«
Allez, va, dépêche-toi. »« Car si tu lui fais attacher son navarin aux pommes, Marie-Jeanne te maudira et elle aura raison. »
Météore s'était déjà volatilisé. 10 minutes après, pendant lesquelles Shuttlecock avait croqué quelques hors-d'œuvre, Météore réapparaissait à l'état naturel et se mettait à table.
« Maintenant, invitait le policier, allez, raconte-moi comment cela s'est passé. »
Tout en faisant honneur au simple mais excellent repas que son maître l'avait convié à partager avec lui, le jeune secrétaire fit à ce dernier le récit exact et détaillé de son entrevue avec la princesse Rascolini. Quand il eut terminé, le roi des détectives reprit.
« Je ne puis que te complimenter très chaudement. Tu as très bien manœuvré. Je t'avais laissé la bride sur le cou, car je voulais me rendre compte de ton savoir-faire. La réussite est là. Elle a été rapide et complète. Oh, je ne pouvais pas espérer mieux. »
« Pourtant, patron, déclarait Météore, nullement grisé par ses premiers éloges, en y réfléchissant, j'ai l'impression d'avoir commis une gaffe. »«
Ah, tu crois ?»
soulignait Shuttlecock avec un malicieux sourire. Et il ajouta finement,
« Bon, il me déplaît nullement de te voir faire toi-même la critique de tes propres opérations. » Cela prouve que tu n'es pas vaniteux. Allons, bon, maintenant, je t'écoute. »
Météore se gonfla les joues, puis laissa échapper. Patron, ma gaffe, selon moi, consiste en ceci. M'être mis dans la peau, ou plus justement, avoir endossé la personnalité d'un homme connu, tel que M. Martinier Verchaud. Vous me comprenez, n'est-ce pas, patron ?
Ben, toujours.
« Je suppose une chose, c'est qu'un jour la princesse Rascolini se trouve en présence du vrai Martinier et qu'elle lui parle de sa visite et que celui-ci lui jure, ses grands dieux, qu'il n'a jamais mis les pieds chez elle. » Météore s'arrêta.
« Continue, continue !» pressait le détective qui semblait beaucoup s'amuser.
« Mais autre éventualité encore plus grave, poursuivait l'apprenti limier. » Voulez-vous qu'une fois partie, la princesse ait eu les soupçons et qu'elle ait téléphoné au papa Ferdinand ?
Et après ? Coupait Shuttlecock.
Mais patron, ce serait un désastre !
Ah, tu crois ?
Mais oui.
Eh bien, petit, tu commets une vaste erreur. Que je te pardonne en raison de ton succès de ce matin et de ton inexpérience. Crois-tu donc que moi aussi je ne m'étais pas fait cette objection que tu viens de t'adresser un peu tardivement ? Est-ce que tu t'imagines, si je l'avais considérée comme dangereuse, que je t'aurais laissé partir en mission, accoutré de la sorte? Allons donc. Je peux fort bien, hein, si tu le redoutes, que la princesse évente ou elle-même ait déjà éventé la mèche. Qu'est-ce que ça peut nous faire, puisque nous avons sa lettre et que je m'en vais une fois de plus démontrer la véracité de l'ancien dicton qui prétend qu'avec quelques lignes de son écriture, on peut perdre un homme et à plus forte raison une femme. Quand bien même saurait-elle que c'est moi qui l'ai fait tomber dans un piège où elle a si bien donné tête baissée, j'en serais très content. D'abord parce que cela prouverait à cette étrange personne que je n'ai pas peur d'elle. Ensuite parce qu'elle se sentirait, pas encore traquée, mais tout de même menacée, qu'elle ne manquerait pas de commettre quelque imprudence dont je n'ai pas besoin de te le dire. Je saurais profiter. Tu vois donc que ta critique n'était nullement fondée. Patron, admirait Météor, oh, vous êtes un super as. Avec vous, on est toujours sûr d'apprendre quelque chose d'intéressant. Vous écoutez, c'est s'instruire. Allez, à ton tour de parler, encourageait le détective. À moi, patron, s'exclamait Météor. J'ai plus rien à vous dire, j'ai vidé tout mon sac. Erreur, petit, grave erreur, scandait le grand limier. Et tout ce que tu as observé là-bas? Car je suis certain que tu n'auras pas manqué l'occasion d'examiner, sans en avoir l'air, et cependant avec la plus grande attention, l'aspect des lieux ainsi que l'attitude de ceux qui les habitent. Patron, déclarait l'élève détective avec franchise, j'aime mieux vous avouer que j'étais tellement préoccupé de ma mission que je n'ai guère eu le loisir de me livrer à des observations qui, je le reconnais, auraient été fort intéressantes. Je suis pas encore, comme vous, un Argus à 100 yeux d'hiver, dont le théâtre est l'univers. Rassure-toi, petit, cela viendra. Tout ce que je puis vous raconter à ce sujet, patron, vous le connaissez aussi bien et même mieux que moi. Je vous apprendrai donc rien de neuf en vous disant que la princesse Rascolini est une femme superbe, qui vous a eu le père de Mirette à faire damner un saint, que l'hôtel où elle demeurait est certainement l'un des plus beaux et des plus somptueux de Paris, que sa collection de médailles, bien que je ne sois guère expert en la matière, m'a paru de tout premier ordre et qu'à elle seule, la galerie où la princesse m'a reçu contient pour plusieurs millions d'objets d'art, tableaux, sculptures, meubles, bibelots, tels que ne sont pas capables de rassembler tous les antiquaires de France et d'Italie. Quel effet a produit sur toi la belle Imperia? Interrogeait brusquement le roi le détective. Météor se gonfla les joues, puis répliqua. L'effet d'une déesse que l'on voudrait bien voir descendre de son Olympe et vous rendre une petite visite entre minuit et 1 heure du matin. Oui. C'est un point de vue très naturel de la part d'un garçon de ton âge, émettait Chantecoq, qui savait, lorsqu'il le voulait, être un merveilleux pince sans rire. Et flegmatiquement, il ajouta « Bon, cependant, je m'attendais à mieux de ta part. » Piqué au vif, Météor, qui ne se laissait jamais prendre au dépourvu, ripostait « Bon, ce n'est qu'une première impression, patron. » La princesse m'en a inspiré d'autres et d'ordre tout à fait différents qui, je m'empresse de vous l'affirmer, ont immédiatement détruit celle que je viens de vous révéler. Oh bon, j'aime mieux ça. Météor poursuivait. Mon premier choc, une fois amorti par la nécessité de ne pas me laisser détourner une seule minute de mon devoir professionnel, j'ai commencé, suivant vos principes, à l'abri de mes lunettes, à rechercher tout en parlant, le regard de mon interlocutrice. Et j'ai noté, sous sa douceur volontaire, une flamme qui n'était pas précisément celle de la droiture et de la bonté. Bien. J'ai remarqué également que le masque de renoncement mélancolique et d'abnégation conjugale dont elle s'affublait n'était pas suffisamment collé à son visage pour dissimuler les ressorts d'un orgueil considérable et les impatiences d'un tempérament excessif. Et de mieux en mieux ensuite. C'est tout, patron. Tu es sûr? Oh, oui, patron. Je parie que non. Je vous assure. Est-ce que tu as vu Marco? Ah, le maître d'hôtel. Oui. Oui, patron. Oh, ce n'est pas lui qui m'a ouvert, mais c'est lui qui m'a reconduit. Et la femme de chambre? Ah, pas plus de Suzanne que de poils dans le creux de ma main. Et le prince Ascolini? Invisible. Mais sa noble épouse ne m'a pas caché qu'il était très malade et elle m'a même quitté pour aller retrouver le médecin qui venait d'arriver. Tu n'as pas recueilli au passage d'autres détails? Non, patron. Repéré d'autres personnages? Non, patron. Ah, si, c'est-à-dire que... Tu vois bien, alors dis-moi vite ce que tu as vu. Le temps de gonfler ses joues, et Météor reprenait. Mais le secrétaire de la princesse. Elle a donc un secrétaire? Oui, patron. Un Italien nommé Gabriele D'Orvieto, un fils de famille, ruiné, par-dessus le marché, grand blessé de guerre, mutilé de la face. Il a dû être sérieusement amoché, car il a le visage entièrement recouvert d'une sorte de masque. C'est à peine si on lui voit un quart d'œil, un morceau de joue et un bout d'oreille. Chantecoq, visiblement intéressé, s'écriait. Et tu prétendais que tu n'avais plus rien à me dire. Mais voilà, petit, mieux qu'un détail, un fait que je qualifierais de capital. Oh, ça, patron, je ne me doutais pas. Tu vas voir, mais encore une question. Où était-il, ce secrétaire?
Dans le cabinet aux médailles.
Et que faisait-il?
Il travaillait à un catalogue.
La princesse avait-elle l'air de le traiter en inférieur?
Non, pas du tout. J'ai même observé que, lorsque ses yeux se fixaient sur lui, leur expression devenait instantanément bienveillante et s'imprégnait même d'une certaine tendresse.
« Mais voilà qui est parfait !» s'écriait Chantecoq. « Aussitôt après le déjeuner, tu vas filer à la préfecture de police. Tu demanderas au service des étrangers le pédigré de ce Gabriele D'Orvieto et tu me le rapporteras avec ta vélocité coutumière. »«
Entendu, patron. »
Et radieux, le roi des détectives s'écria. Non, oh, je donnerais bien ma tête à couper que ce Gabriele ne s'appelle pas plus Corvietto que je m'appelle Fanfan la Tulipe ou la Toi-Poil, et qu'il n'est pas plus mutilé de la face que toi et moi, mais qu'il est l'amant de la belle Impéria, de la vertueuse princesse, et qu'il est aussi... Enfin, mais n'anticipons pas. Avale ton café, Météor. Nous avons travaillé chacun de notre côté, et si je ne suis pas trompé dans mes déductions, ce qui m'étonnerait fort, je crois que nous pouvons marquer cette journée d'un caillou blanc. D'un trait, Météor absorba le restant du breuvage succulent et parfumé, et d'une voix pleine d'ardeur juvénile, il fit, en se levant de table, « Patron, au revoir, et à tout à l'heure !» Encore tous mes compliments, fit Chantecoq en lui tendant la main. Tout en la serrant avec déférence, le jeune secrétaire s'écriait « Jamais, patron, oh, je vous dirai assez combien je suis heureux et fier de travailler sous vos ordres !» Chantecoq voulut lui donner une tape amicale sur la joue, mais Météor avait déjà disparu dans l'antichambre. Avec un bon sourire, le roi des détectives murmura « Oh, je suis tranquille sur son sort. Il fera son chemin. Il ira même très loin. Tant mieux. C'est un si brave enfant. » Et il retourna dans son studio. Son premier geste fut de se rendre à son coffre-fort, d'en retirer le papier buvard et la lettre qu'il avait rapportée de la rue Henri Hein, et de les étaler sur la table de travail. Tirant de sa poche la missive que son secrétaire lui avait remise avant le déjeuner, il allait se livrer à un travail de comparaison extrêmement minutieux entre cette lettre et les deux autres documents, lorsqu'on frappa à sa porte. « Entrez !» fit-il d'un air un peu agacé, car il n'avait guère à être distrait, surtout lorsqu'il avait une besogne aussi délicate à accomplir. La silhouette de Gaudret se profila sur le seuil. « Patron, dit l'excellent garçon, excusez-moi de vous déranger, c'est une dame qui demande à vous parler. » Chantecoq jeta un rapide coup d'œil sur son bloc-notes, puis il fit « Mais je n'ai aucun rendez-vous pour cet après-midi, je suis bien occupé. Priez cette dame de m'écrire l'objet de sa visite, et je lui fixerai une heure, mais un autre jour. » Gautret reprenait. « Cette personne m'a dit qu'elle avait un mot à vous remettre de la part de M. Bellegarde. »« Oh, alors, c'est différent. Si Jacques m'envoie quelqu'un, c'est certainement pas pour me faire perdre mon temps. » Et tout en serrant vivement ses papiers dans le tiroir central de sa table, il ordonna « Bon, Gautret, fais entrer cette dame. » Quelques secondes après, la visiteuse pénétrait dans le bureau de Chantecoq. C'était une femme d'une cinquantaine d'années, vêtue de noir et d'une distinction parfaite. Son visage, ravagé par une douleur qui devait être aussi récente que profonde, portait les vestiges d'une rare beauté. Chantecloq se leva et fit, en lui désignant un siège, « Madame, soyez la bienvenue. » L'inconnu lui tendit une lettre dont le limier prit aussitôt connaissance. Elle était ainsi conçue. « Mon cher beau-père, je me permets de vous adresser Madame Quereno, veuve de mon confrère et ami, qui fut pendant de si longues années mon collègue au Petit Parisien. Madame Quereno vous dira elle-même l'objet de sa démarche. Je vous connais assez pour être sûr que votre excellent cœur sera vivement ému par l'infortune de cette pauvre femme que sa très digne existence et les hautes qualités morales rendent respectable entre toutes. Je vous remercie d'avance de ce que vous voudrez bien faire pour elle. Si vous n'êtes pas trop occupé, nous viendrons ce soir, Colette et moi, passer quelques instants après dîner avec vous. En affection grande, Jacques Bellegarde. » Sa lecture terminée, Chantecoq fit aussitôt. « Venant de la part de mon gendre, vous ne pouvez, madame, qu'être ici la bienvenue. J'ai d'ailleurs connu votre mari. C'était un journaliste de grand talent, doublé d'un parfait honnête homme. Croyez que, en souvenir de lui, je serais très heureux d'obliger celle qui a été pour lui une si admirable compagne. Monsieur, reprenait madame Kerenold, d'une voix que l'émotion faisait un peu trembler, « Monsieur Bellegarde m'avait prédit que je trouverais auprès de vous un très réconfortant accueil. Je m'aperçois qu'il ne s'était pas trompé, et je lui en suis, ainsi qu'à vous-même, extrêmement reconnaissante. « Et que puis-je faire pour vous, madame ?» interrogeait le détective. « Monsieur Chantecoq, reprenait la visiteuse, vous avez devant vous une femme très malheureuse et qui paie très cher les années de clair et simple bonheur qui ont été interrompus par la mort du meilleur des maris. Du jour où j'ai eu le déchirement de perdre celui qui m'avait rendue si heureuse, j'ai connu toutes les tristesses, toutes les angoisses, toutes les amertumes. Mais je ne veux pas vous importuner avec des plaintes. Je sais, monsieur Chantecoq, que vous êtes un homme dont le temps est infiniment précieux et avec lequel il faut aller droit au but. J'y arrive. J'ai un fils âgé de 28 ans, et depuis le 3 janvier dernier, il a disparu. Sur ma demande, la police a fait des recherches. Elles ont été exécutées très sérieusement, j'en ai la preuve absolue. Hélas, elles sont demeurées infructueuses. Et je viens vous prier, monsieur Chantecoq, sur le conseil de monsieur Bellegarde, de bien vouloir m'aider à retrouver mon fils. Mais en principe, madame, j'accepte. « Merci. Mais avant tout, j'ai besoin de certains renseignements. »« Monsieur Chantecoq, reprenait madame Quereno, voici d'abord une photo de mon pauvre Raymond. »
Elle tendit un portrait carte-album au limier, qu'il examina aussitôt avec une persistante attention. Raymond Queréneau était un très beau garçon, dont le complet veston de bonne coupe faisait valoir la structure d'athlète souple et élégante. Un sportif à coup sûr, mais un sportif mondain avant tout, et qui devait fréquenter au moins aussi assidûment les dancings en vogue que les cours de tennis. Le regard était provocant jusqu'à l'insolence, la bouche sensuelle, ironique et dédaigneuse, le menton volontaire. Bien qu'il dût inspirer mieux que de l'intérêt à une certaine catégorie de femmes pour lesquelles le muscle, c'est l'homme, il se dégageait de son image une impression fâcheuse, inquiétante même, qui du premier coup d'œil le rendait antipathique au point d'inspirer une immédiate méfiance. Chantecoq, imperturbable, demanda à Madame Queréneau : « Vous dites, madame, que monsieur votre fils est âgé de 28 ans.
« Oui, monsieur. Voici d'ailleurs une note que je vous ai préparée et qui, mieux que je ne saurais le faire de vive voix, vous mettra au courant de l'existence de mon malheureux enfant. »
Chantecoq saisit le document que lui tendait la pauvre femme. Il était ainsi rédigé. « Raymond Charles Étienne Queréneau, né à Paris le 2 janvier 1900, a fait des études assez médiocres au lycée Carnot. S'est même fait renvoyer pendant la guerre peu de temps avant de passer son premier baccalauréat. Est entré comme employé dans une grande agence de vente d'automobiles avenue des Champs-Élysées. N'y est resté que quelques mois. Passionné de sport, s'est fait coureur cycliste, a remporté quelques prix. Service militaire à Nancy, à la suite d'un refus d'obéissance, condamné à 1 an de prison. Rentré à Paris, il se refuse nettement tout effort suivi à tout travail sérieux. À la suite d'une violente discussion avec son père, rompt entièrement avec sa famille, qui apprend bientôt qu'il se fait engager comme danseur dans un établissement de nuit à Montmartre. Resté 3 ans sans donner signe de vie au sien. À la mort de M. Queréneau père, aux trois quarts usés par 2 ans de guerre et 2 ans et demi de captivité dans un camp de représailles de la Prusse orientale, Raymond reparaît alors, assiste aux obsèques de son père, réclame sa part d'héritage, 50 000 francs, et repart de nouveau, monte un cabaret de nuit aux alentours de la place Pigalle, en société avec un Italien qui s'enfuit au bout de 3 semaines avec la caisse. Famille, poursuite judiciaire, faillite, menace d'arrestation. Madame Queréneau paie les dettes de son fils et celui-ci jure de s'amender en travaillant et cherche ou fait semblant de chercher une place. Il annonce un jour à sa mère qu'il est nommé administrateur général dans l'établissement qui vient de s'ouvrir auprès de Bois-Colombes sous le titre de « Palais des sports ». Sa situation, cette fois, semble sérieuse et même brillante. Il demeure dans un rez-de-chaussée de l'avenue Henri Martin, dont le loyer est de 10 000 francs par an, et qu'il a fait meubler très luxueusement. Il a même une belle auto. Il mène la vie à grande guide, fréquente les grands restaurants, dépense sans compter. De temps en temps, il vient rendre de brèves visites à sa mère, à laquelle il a rendu les sommes que celle-ci avait déboursées pour lui. Il lui déclare qu'il brasse de très grosses affaires, qu'il est sur le chemin de la fortune, qu'il est ravi, enchanté. Madame Queréneau le croit et s'en réjouit. Puis brusquement, après le jour de l'an où il est venu voir sa mère, il disparaît. Au bout de 8 jours, Madame Queréneau commence à s'inquiéter. Elle téléphone rue Henri Martin. On lui affirme qu'on ne répond pas. Madame Queréneau se rend chez son fils. La concierge lui déclare qu'il est parti depuis le 3 janvier en auto pour une destination inconnue et qu'elle ne l'a pas revu. Madame Queréneau se transporte au Palais des Sports.
Là, elle éprouve une pénible surprise. On lui déclare, en effet, que Raymond Queréno n'a jamais, à aucun titre, appartenu à l'administration de cet établissement. Et pourquoi a-t-il menti à sa mère? Par quels moyens se procurait-il l'argent considérable que nécessitait son train d'existence? Madame Queréno, qui malgré tout a conservé pour son fils une tendresse maternelle profonde, fait elle-même une première enquête qui ne lui donne aucun résultat. Pour tous, amis aussi bien que fournisseurs, l'existence de Raymond Queréno est un mystère, et l'origine de ses ressources demeure inexplicable. Madame Queréno, de plus en plus angoissée, parvient à se faire remettre par le concierge qui faisait son ménage les clés de son appartement. Elle espère trouver dans les papiers de son fils quelques indices qui lui permettront de reconstituer sa vie et peut-être aussi de retrouver sa trace. Mais une nouvelle surprise attend la mère du disparu. En pénétrant dans la garçonnière de la rue Henri Martin, elle constate que celle-ci a été cambriolée. Les serrures de tous les tiroirs, des armoires, des commodes, des tables ont été forcées. On a tout visité, fouillé. Les matelas, les traversins, les oreillers, jusqu'au sommier ont été éventrés. Toute correspondance a disparu. Impossible même de découvrir un livre de comptes. La frayeur de Madame Queréno redouble. Elle se demande avec terreur si son fils n'a pas été assassiné. Elle s'adresse au procureur de la République qui ordonne une enquête. Mais depuis 3 mois, toutes les recherches ont été vaines. L'opinion de l'inspecteur Ménardier, chargé de retrouver Raymond Queréno, est que celui-ci a dû être attiré dans un guet-apens et assassiné. Là se terminaient les notes que Madame Queréno avait remises à Chantecoq. Après avoir guetté en vain sur le visage du détective les impressions que lui causait la lecture de ces lignes si émouvantes dans leur sincérité, la pauvre femme reprenait avec effort « Vous devez penser, monsieur, combien il m'en coûte d'étaler devant vous toute la triste existence de cet enfant si malheureusement dévoyé. Mais, puisque je vous demandais de retrouver mon fils, j'étais dans la stricte obligation, si pénible fut-elle, de vous dire toute la vérité. D'ailleurs, je savais que vous êtes le tombeau des secrets, et cela m'a donné le courage nécessaire pour écrire ces phrases, qui ne sont pas le réquisitoire d'une mère contre son fils, mais l'exposé loyal et complet de la réalité. Raymond, ainsi que le prétend l'inspecteur Ménardier, a-t-il été assassiné? Je ne puis accepter une éventualité aussi épouvantable. Je refuse de m'y arrêter. Je l'aime toujours, monsieur Chantecoq. C'est mon fils, n'est-ce pas? Mon fils unique. Je suis seule au monde, toute seule. Et j'avais toujours l'illusion qu'une fois, sa gourme jetée, Raymond comprendrait la nécessité d'une vie rangée. J'en étais même arrivé à croire que c'était fait, que cette aisance affichée par lui était due à son labeur. Oh, quel effondrement! Monsieur Chantecoq, vous êtes ma dernière espérance. Mais ai-je le droit d'espérer? N'est-ce pas plutôt monsieur Ménardier qui a raison? Oui, oh, tout plutôt que cette abominable incertitude. Si on l'a tué, qu'on me le prouve. Et s'il est vivant, qu'on me le rende. Madame Queréno avait proféré ces dernières phrases avec un accent si déchirant que Chantecoq s'en sentit profondément ému. Désireux de prouver sur le champ à cette mère en larmes combien il compatissait à sa souffrance, il reprit avec le ton de la plus délicate bonté. « Oh, bien que je sois pris en ce moment par plusieurs et surtout par une affaire du plus haut intérêt et d'une extrême urgence, je tiens à vous déclarer, madame, qu'à partir de ce moment, je prends en main les recherches que vous me demandez d'effectuer et que je ne les cesserai que lorsque j'aurai obtenu une solution décisive. Cette solution, quelle sera-t-elle? Je ne puis pas le prévoir encore. Mais bien que je ne sois encore en possession que des données que vous venez de me fournir, et qui, malgré leur précision, sont insuffisantes pour que je me fasse une opinion et que je formule même une hypothèse, je crois pouvoir vous affirmer que vous serez fixé dans un délai relativement rapproché. Je ne voudrais pas porter sur l'inspecteur Ménardier un jugement défavorable. Je le connais et je l'estime beaucoup pour son entregent, sa hardiesse, son courage et son activité. Il a à son tableau de chasse un très joli lot d'assassins et de voleurs. Il a rendu et il rendra encore de très nombreux services, mais il manque un peu de psychologie. Et il en faut beaucoup dans une affaire du genre de celle que vous venez de me confier. A priori, en effet, la disparition de votre fils ne peut s'expliquer que de deux manières, fugue ou meurtre. Et tout en reprenant la photo de Raymond Queréno et en la fixant attentivement, il fit « Si ce jeune homme avait été attiré dans un guet-apens par des bandits qui voulaient le dévaliser, en un mot, s'il s'agissait d'un crime dit crapuleux, Ménardier, j'en suis certain, aurait déjà débrouillé le mystère. C'est sa spécialité, et sur ce terrain, il est imbattable. À mon avis, dans le cas présent, jamais le vieux principe « chercher la femme » n'a été plus vrai. C'est donc de ce côté que je vais commencer par orienter mes premières investigations. » Chantecoq prit un temps, puis il déclara. « Madame, je voudrais vous poser une question qui va sans doute heurter votre âme si maternelle, mais c'est la première qui me vient à l'esprit. Et malgré ma répugnance à vous attrister davantage, j'estime cependant qu'il est de mon devoir de vous l'adresser. « Parlez, monsieur, » invitait Madame Queréno. « Tout plutôt que le doute, oui, tout. » L'inspecteur Ménardier a dû, à coup sûr, s'occuper de la vie privée de votre fils. « Oui, monsieur. » Et reconstituer par conséquent ses liaisons passées et présentes. « Oui, parfaitement. Oh, je dois dire qu'elles ont été multiples. Mais monsieur Ménardier m'a déclaré formellement que ce n'était pas de ce côté qu'il fallait chercher. Naturellement, puisqu'il s'est mis en tête qu'il s'agissait d'un crime crapuleux. Alors, selon vous, monsieur Chantecoq, il s'agirait d'un crime passionnel ? Oh, je ne suis pas si affirmatif, madame, et j'ignore même s'il y a eu assassinat. Ce qu'il importe avant tout de savoir, c'est d'où votre fils tirait les ressources dont il avait besoin pour faire face à ses coûteuses dépenses. « Monsieur, fit amèrement la mère, moi je le sais. » Et en un geste de détresse et de honte, elle se cacha la tête entre ses mains. Respectueux de cette immense douleur, Chantecoq gardait le silence, n'osant plus interroger cette mère qui, pour retrouver son fils, ou plutôt pour apprendre dans quelle lamentable histoire, dans quelle sinistre aventure il avait définitivement sombré, disparu, se trouvait dans l'atroce obligation d'étaler devant lui toutes ses tares, tous ses vices, toute son infamie. Mais, se raidissant contre l'accablement momentané qu'il avait abattu, Madame Queréno releva le front et courageusement reprit. « Monsieur Chantecoq, pardonnez-moi cet instant de défaillance, mais ce qui me reste à vous révéler est tellement épouvantable que j'hésite à parler. C'est mon fils, n'est-ce pas? Alors pensez, se dire surtout qu'il a été capable d'une action aussi vile, aussi basse, oh, cela me bouleverse. « Calmez-vous, madame, mon conseiller le détective. Et dites-vous que vous êtes en face d'un confesseur laïque, mais tout aussi respectueux des secrets qu'on lui confie qu'un confident sacerdotal. J'en suis persuadé, monsieur Chantecoq, et je suis le moins convaincu de la nécessité que vous soyez au courant de tout, aussi ne vais-je rien vous dissimuler. Voilà. Mon fils était l'amant d'une femme très riche. » Madame Querenol s'arrêta, suffoqué par les sanglots. Mais vaillamment, elle voulut continuer. D'un geste plein de déférente bienveillance, Chantecoq, désireux d'abréger son supplice, l'arrêta et fit aussitôt: « Connaissez-vous le nom de cette femme ?»«
Mon nom, monsieur. »
« Avez-vous quelques soupçons ?»«
Aucun. »
« Allons, pardonnez-moi d'insister. »
« Je vous en prie. »
« Mais comment avez-vous pu apprendre cela ?»«
Bien, le premier de l'an dernier, mon fils vint me souhaiter la bonne année. » Il était devenu en effet très gentil avec moi, et si ses visites n'étaient pas très fréquentes, il se montrait toujours à mon égard, plein de prévenances, d'attention, et me faisait même de nombreux cadeaux, qu'aujourd'hui je rougis d'avoir accepté. Mais comment aurais-je pu en soupçonner la source? Et ce jour-là, Raymond fut envers moi plus affectueux qu'il ne l'avait jamais été. Il resta même à déjeuner et s'en fut ensuite à la cuisine, porter une gratification à la vieille bonne Françoise qu'il avait connue tout petit. Il me quitta après m'avoir embrassé tendrement et même avec une certaine émotion, si bien que souvent je me suis demandé s'il n'avait pas eu à ce moment l'intuition qu'il ne me verrait plus jamais. Moi-même, j'éprouvais de son départ une très grande tristesse. Les pressentiments, il ne faut pas chercher à les expliquer. On les subit, voilà tout. Et ce n'est pas la première fois que je me suis aperçu qu'il n'était pas toujours trompeur. Je me retirais dans mon salon et j'admirais les très belles roses que Raymond m'avait apportées lorsque Françoise arriva, une enveloppe dégagetée à la main. « Madame, me dit-elle, je viens de trouver ça dans ma cuisine. » Après que M. Raymond a été parti, c'est une lettre qu'il a sans doute laissé échapper de son portefeuille lorsqu'il m'a remis un billet de 50 francs. Je saisis l'enveloppe, je regardai l'adresse, dont l'écriture était nettement féminine. Et sans prendre connaissance de son contenu, je l'enfermai dans mon secrétaire, me promettant bien de la remettre à mon fils dès qu'il reviendrait me voir. Et plusieurs jours s'étaient passés sans que j'eusse de lui la moindre nouvelle. Alors je me rendis chez lui, ainsi que je vous l'ai raconté tout à l'heure. Sa mystérieuse disparition compliquait des déclarations fausses qu'il m'avait faites sur sa situation, m'incitèrent à prendre connaissance de la lettre que Françoise m'avait remise. Elle ne portait aucune signature, mais elle était conçue en de tels termes qu'il m'était impossible de garder la moindre illusion sur la déchéance morale de mon fils. Cette lettre révélatrice, monsieur Chantecoq, la voilà. Peut-être vous apportera-t-elle un indice, vous mettra-t-elle sur le chemin de la vérité. Tout en s'emparant de la missive, le détective interrogeait: L'inspecteur Ménardier a-t-il eu ce document entre les mains ? Ben non, monsieur,
répondit catégoriquement Madame Trecnot. Alors, il est excusable d'avoir fait fausse route, déclarait le grand limier. La pauvre femme reprenait:
Oui, je reconnais que j'ai eu tort de ne pas lui montrer cette lettre, mais n'étais-je pas excusable ? N'est-il rien de plus affreux pour une mère que d'être contrainte de salir la réputation de son enfant. Et puis, par la force même de la loi, la police officielle n'est-elle pas astreinte à étaler au grand jour les secrets les mieux couchés, les hontes les plus inconnues? La presse s'en empare, et comment pourrait-on lui reprocher? Son rôle n'est-il pas de renseigner le public? Femme de journaliste, je n'ai pas le droit de lui en vouloir, ni de l'en blâmer. Mais je frémissais à l'idée que toute cette misère allait être étalée au grand jour, que dans ce petit Parisien où le grand honnête homme qu'était mon mari avait pendant ces si longues années publié de si beaux articles, le nom de mon fils allait être livré à l'indignation des lecteurs.
Je regrettais alors d'avoir prévenu la police, dès que j'avais découvert que l'appartement de mon fils avait été cambriolé. Car si j'avais lu plus tôt cette lettre, j'aurais peut-être gardé le silence. Et pourtant, une insatiable curiosité me pousse encore à tout savoir. Je me cramponne à l'espoir que mon fils est toujours vivant et que moralement, matériellement, il est encore temps de le sauver. Voilà pourquoi, monsieur Chantecoq, je n'oublierai jamais ce que vous consentez à faire pour moi. Je ne suis pas riche, mais...
Madame, je vous en prie, interrompit Chantecoq. Laissez-moi vous dire qu'il ne saurait y avoir aucune question d'argent entre vous et moi. Vous êtes la veuve d'un homme que j'estimais infiniment. Je n'ai pas oublié qu'à plusieurs reprises, dans ses si remarquables articles sur la police officielle et privée, il avait cité mon nom et l'avait accompagné d'éloges auxquels je fus d'autant plus sensible qu'ils étaient sincères. Et puis vous m'êtes envoyé par mon cher Jacques Bellegarde, qui est pour moi mieux qu'un gendre, c'est-à-dire un ami. Enfin, et maintenant c'est le détective qui parle, et je crois qu'il a un peu voix au chapitre, l'affaire que vous m'apportez m'intéresse vivement. Et c'est encore moi, madame, qui suis votre obligé.
Je vois, monsieur Chantecoq, déclarait madame Querénaud, que votre délicatesse est l'égale de votre talent. Mais je ne veux pas abuser plus longtemps de vos instants. Je vous laisse cette photo et cette lettre.
Oui, je vais l'examiner à la loupe et au besoin au microscope, déclarait le grand limier, car, soyez-en sûre, madame, c'est elle qui nous livrera la clé du mystère. Et, devinant ce que pensait son interlocutrice, sans oser le formuler, il ajouta « Inutile de vous affirmer, madame, que, quel que soit le résultat de l'enquête à laquelle je vais me livrer, il demeurera toujours votre secret et le mien.
Oh, je suis tout à fait tranquille. Oh, je n'ose trop vous fixer un rendez-vous, car, ainsi que je vous l'ai dit, je suis sur une autre affaire très grave qui me prend beaucoup de temps, mais soyez sans inquiétude. Je puis mener les deux de front. Dans l'une, il s'agit de sauver un innocent, et dans l'autre, j'ai recherché un coupable. Il faut donc aller vite et ça ne traînera pas, je vous le jure. » Après avoir encore remercié le détective, madame Querénaud s'en fut, sinon rassérénée, mais moins angoissée. Dès qu'elle eut pris congé de lui, Chantecoq retira de l'enveloppe la lettre révélatrice. À peine y avait-il jeté les yeux qu'il s'écriait « Ah, ça par exemple, mais c'est un peu fort !» Vite, il reprenait dans le tiroir où il les avait serrés la lettre découverte par lui rue Rennes et celle que Météor venait de lui apporter. Il se livrait aussitôt à un examen de comparaison qui ne fit que le confirmer dans son impression première. L'écriture des trois messages, bien que différente, révélait certains signes particuliers qu'un graphologue ordinaire n'eût pas manqué de remarquer. Or, Chantecoq était passé maître en cet art, et pour lui, il n'y avait pas l'ombre d'un doute. C'était la même main qui avait tracé les trois messages, c'est-à-dire celle de Germina Roscolini. Enchanté de cette découverte sensationnelle, le roi des détectives s'écriait « Maintenant, belle princesse, je vais te prouver que, si trop parler cuit, trop écrire nuit. » Et il ajouta « Oh, décidément, plus que jamais, je vois que les vieux proverbes ont du bon, et qu'un bienfait n'est jamais perdu. Si j'avais envoyé promener cette pauvre madame Querénaud, je n'aurai pas à ma possession cette lettre, qui va peut-être me donner la clé de cette énigme embrouillée qu'est le mystère du train bleu. Mon flair me dit en effet que ces deux affaires se tiennent. Mais bonté divine, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là-dessous? C'est égal, mon gendre ne m'a pas fait perdre mon temps en m'envoyant cette brave dame. Décidément, s'il y a un hasard pour les policiers officiels,
Il y a une providence pour les détectives privés. Allez, baisse les batous, leur tourne. Chante comme tu as assez chanté. Allez, travaille et tais-toi. Voyons d'abord un peu ce que la princesse Oscolini écrivait à Raymond Queréno. Et Chantecoq lut ce qui suit. Mon aimé, il faut que je te gronde doucement, mais avec fermeté. Tu m'avais promis de ne plus toucher à une carte et te voilà contraint de m'avouer que tu as encore fait une différence de 50 000 francs avant-hier au cercle des sports réunis et que cette porte a complètement absorbé tes disponibilités. Je ne veux pas te laisser dans l'embarras et je t'enverrai le chèque que tu me demandes. Mais sache bien, si grand soit mon amour pour toi, que c'est le dernier sacrifice de ce genre que je te consens. Je veux plus que jamais que tu aies la vie heureuse et facile. Voilà pourquoi j'exige que tu rompes définitivement avec des habitudes qui ne tarderaient pas à dégénérer en une passion capable de te conduire aux pires abîmes. Et tout plutôt que de te voir persévérer dans une si mauvaise voie. J'espère que tu liras entre ces lignes ce que je ne puis t'écrire et qu'après avoir réfléchi, tu comprendras qu'il est grand temps pour toi de devenir ce que je veux que tu sois. À toi, malgré tout, ton ami très triste. Chantecoq murmura. Bon, ben voilà une lettre qui va me permettre de reconstituer pas mal de faits et aussi pas mal de choses. Voyons d'abord le cachet de la poste. Le limier saisit l'enveloppe et regarda. Le cachet, assez visible, indiquait que la lettre avait été jetée à la boîte le 26 décembre au bureau de la place de la Bourse. Chantecoq pensa « Oh, je commence à voir clair dans cette histoire, qui me semble à présent beaucoup moins embrouillée que je ne l'avais cru tout d'abord. Raymond Queréno était l'amant, comment dirais-je, bien, il était bien l'amant intéressé et peu intéressant de la princesse. À la menace déguisée, mais suffisamment transparente, que la belle impériale lui a faite de lui couper les vivres s'il persistait à taquiner la dame de pique, le non moins beau Raymond aura riposté par une tentative de chantage. Et cette Italienne, qui a peut-être dans les veines du sang de Lucrèce Borgia, ou tout au moins des Médicis, y aura répondu en faisant supprimer radicalement son... comment dirais-je, sont pensionnés. Et ce qui donne une grande solidité à mon raisonnement, c'est que l'appartement du jeune Queréno a été mis à sac, que tous les papiers que détenait son propriétaire ont disparu, et que si celui-ci n'avait pas laissé tomber dans la cuisine de sa maman cette lettre si importante, il ne serait pas resté la moindre trace d'une liaison qui a dû être aussi secrète pour tous que coûteuse pour la princesse et profitable pour le... Ah, cette fois, disons le mot, pour le gigolo. Donc, à présent, il est nettement établi que la belle impéria, loin d'être l'épouse martyre, la sainte résignée qu'elle veut se faire passer aux yeux du monde, est pire qu'une personne peu recommandable, c'est-à-dire une gueuse parfaitement capable d'un crime, et même de plusieurs. Une femme de son rang, de sa situation, qui dégringole aussi bas et parvient à cacher ses turpitudes sous des dehors aussi trompeurs, mais n'est pas capable de tout. En tout cas, j'ai contre elle une arme formidable. Je ne serais pas surpris qu'elle me donne promptement l'occasion de m'en servir. Par exemple, ce qui me chiffonne un peu, c'est que tout en demeurant de plus en plus persuadé qu'il existe un lien entre la disparition de Queréno et le meurtre de Roscanvel, je ne vois pas, mais pas du tout, en quoi il peut consister. Dans quel but la Roscolini aurait-elle tué le comte Robert? Pour se venger? Pour perdre Guéret et par ricochet la comtesse Marie-Thérèse? Or, la comtesse m'a affirmé que ni elle ni son mari ne connaissaient la princesse. Et je n'ai aucune raison de mettre en doute la sincérité de cette jeune et charmante femme. Enfin, quel rôle joue ce Gabriele d'Orvieto? Est-il le successeur de Celeno? Eh bien, serais-je trompé, au contraire, en le prenant pour amant, en le prêtant pour amant à la princesse? Voilà où les chevaux s'embrouillent singulièrement. Mais ne nous frappons pas. En 48 heures, nous avons fait de très bonnes besognes. J'ai déjà en main de nombreux atouts. Mais nous allons maintenant nous en servir. Et Chantecoq, s'emparant d'une feuille de papier, la plia en 8 morceaux qu'il sépara à l'aide d'un canif. Sur chacun d'eux, il écrivit le nom des personnages principaux du drame au milieu duquel ils se débattaient. Roscanvel, Guéret, Quereno, Marco, le prince Rascolini, la princesse Germina, Madame de Roscanvel, Suzanne. Il commença par les placer dans cet ordre, les uns après les autres, puis il se livra à des combinaisons de toutes sortes, changeant, intervertissant les petits carrés comme les pions d'un damier. On lui dit une carte ancienne faisant manœuvrer des tarots. Puis il s'enfuit à son coffre-fort, en retira la photo de Monsieur de Roscanvel, la déposa sur la table et la compara avec celle de Quereno. « On ne peut pas dire qu'ils se ressemblent, murmura-t-il au bout d'un moment. Leurs traits n'ont même rien de commun. Ce sont deux beaux gars, deux costauds, ainsi que l'on dit vulgairement, et tel que doit les aimer cette ardente Florentine. En supposant, contrairement au dire de Madame de Roscanvel, que la belle Impéria, dont la lettre à Quereno démontre lumineusement qu'elle est lasse de ce dernier, se soit emballée pour Roscanvel et que ce dernier soit devenu son amant, leur liaison aurait été de courte durée, puisque la disparition de Querevol date du 3 janvier et que l'assassinat de Roscanvel date du 6. Au fait, qui nous dit que la Rascolini n'est pas capable d'atteler à deux, et que Roscanvel, à l'insu de sa charmante femme, n'était pas depuis un certain temps son amant? Alors pourquoi la princesse l'aurait-elle supprimé? Se serait-elle inspirée de la tradition de Marguerite de Bourgogne, qui faisait coudre dans un sac et jeter à la Seine ses amants lorsqu'ils avaient cessé de lui plaire? En tout cas, il est un fait patent, c'est qu'elle a signé son crime en m'adressant cette lettre où elle m'interdit, sous peine des pires représailles, de m'occuper de l'affaire Roscanvel. Oh, c'est déjà beaucoup. Il ne s'agit plus que de lui délier la langue ainsi que celle de ses deux complices, Marco et Suzanne. Allons, je suis content, les chevaux commencent à se débrouiller. Nous allons pouvoir entrer dans la période active. Fini la guerre de tranchées, à nous la guerre des manœuvres, et en avant !» Chantecoq s'en fut ranger tous ses documents dans son coffre, et il allait passer dans son laboratoire lorsque Météor surgit tout à coup dans le studio, tel un diable qui sortirait d'une boîte. « Pardon » annonça-t-il. « Ainsi que vous l'aviez prévu, il n'existe pas à Paris l'Italien du nom de Gabriele d'Orvieto. » Ah ah! Scanda Chantecoq. Et tout de suite il ajouta: il serait très important de s'informer dans le plus bref délai de la date à laquelle ce pseudo Gabriele est entré au service de la princesse. Mais c'est fait, patron. Comment? Tu as pensé à cela? Oui, patron. J'ai cavalé jusqu'à l'avenue Henri Martin et en interrogeant adroitement quelques fournisseurs, j'ai fini par savoir que la Gabriele en question avait débarqué chez la princesse le 8 janvier dernier. « Oh, c'est-à-dire, » approchait Chantecoq, « 48 heures après l'assassinat de M. de Roscanvel. » Météor allait parler, mais d'un geste énergique, le grand limier lui imposa le silence. Puis lentement, il fit, comme s'il se parlait à lui-même, « Il faut absolument que je sache
Quelle tête ce grand mutilé cache sous son masque!